Bonjour à toutes et tous. Si vous vous intéressez aux questions de défense et de sécurité, vous savez ce que représente le salon Eurosatory qui se déroule tous les deux ans à Paris. C'est cette année la 28e édition qui se tient du 17 au 21 juin prochain à Paris-Nord-Villepinte. Et Eurosatory, qui sponsorise cet épisode, sera comme à chaque fois le grand rendez-vous mondial de la défense et de la sécurité. Je veux juste dire, c'est un événement que je trouve très étonnant, assez fascinant. J'y suis allé pour la première fois il y a deux ans pour l'édition 2022. Et vraiment, si vous vous demandez ce qui se fait dans le monde militaire et en matière de sécurité, c'est là qu'on peut voir les dernières tendances, depuis les plus grandes geekeries et les innovations du moment, jusqu'aux grands équipements du futur pour les armées et les forces de sécurité en France et dans le monde. Bref, si vous intéressez de près à ce monde-là, c'est le moment de vous inscrire pour ce qui sera la plus grande édition de l'histoire du Salon, avec plus de 1900 exposants et 60 000 visiteurs. Vous pouvez le faire en allant sur eurosatory.com. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Aujourd'hui, un épisode dans le viseur en partenariat avec l'école de guerre, donc récit d'opération, récit de vie militaire. Et j'ai le plaisir de recevoir donc le lieutenant-colonel Johan, alors de l'armée de l'air et de l'espace. Bonjour.
Bonjour Alexandre, merci de me recevoir.
Pour nous raconter donc un souvenir, alors toujours la première question à poser à un aviateur, c'est sur quoi il vole. Donc quel est, puisque vous êtes pilote de quoi ?
Alors moi je suis pilote de Mirage 2000-5, qui est un avion monoplace de supériorité aérienne, qui est plutôt jeune, qui n'est pas encore de la génération du Rafale, néanmoins qui a été bien modernisé au début des années, enfin fin des années 90, début des années 2000, et qu'on utilise toujours aujourd'hui.
Donc avion de supériorité aérienne, c'est vraiment l'objectif de contrôler le ciel, c'est...
Exactement. Cet avion-là ne fait pas d'assaut, ne fait pas de bombardement, ne fait pas de reconnaissance. Et sa mission unique, c'est de se défendre ou d'attaquer d'autres avions. Donc vraiment de se battre contre d'autres avions.
Et c'est donc pour un souvenir, qui remonte un peu, mais pas tant que ça finalement, de 2018. Alors, où vous étiez en 2018 avec votre Mirage 2000, pardon.
Alors effectivement, c'est un souvenir qui remonte à l'été 2018 et qui se déroule dans le cadre de la police du ciel de l'OTAN, donc pas en France. Je sais que dans votre podcast, vous avez déjà reçu un aviateur avant moi pour parler de la police du ciel en France. Et donc là, cette fois-ci, je vais vous parler de la police du ciel dans les États baltes. Alors pour mettre un petit peu dans le contexte, c'est une mission particulière qui se déroule en juillet 2018, juste après la fin de la Coupe du Monde de football, qui a vu la victoire de la France, donc une certaine... On est encore sur ce petit nuage de bonheur national, voilà. Et ce qui est intéressant, le rapport avec la mission, c'est que la Coupe du Monde, comme vous le savez, elle se déroulait en Russie, et sur le territoire russe, et puis également dans l'enclave de Kaliningrad. Justement, avec notre unité, on était stationné pour 4 mois dans les États baltes, en l'occurrence en Estonie, donc le pays balte qui est le plus au nord, pour un mandat de police du ciel de l'OTAN. Donc pour vos auditeurs, la police du ciel de l'OTAN, c'est une mission qui est assez ancienne. Et en l'occurrence, chaque pays de l'OTAN qui possède une aviation de chasse fait sa propre police du ciel au-dessus de son espace aérien national. Et puis partage avec la chaîne OTAN les informations de ses radars et les informations qui intéressent les pays voisins. Et puis en 2004, quand les pays baltes sont entrés dans l'OTAN, ils ont fait la demande à l'organisation pour avoir une police du ciel au-dessus de chez eux, étant donné qu'eux-mêmes n'avaient pas d'aviation de chasse. Donc ils avaient en revanche mis en place toute une chaîne de moyens de détection, des radars, des centres de contrôle, mais pas d'avion pour aller faire la police, on va dire, physique, ce qu'on appelle les mesures actives de police du ciel au-dessus de chez eux.
Donc on envoie des avions français et des autres pays de l'OTAN pour accomplir cette tâche à leur profit. Quoi.
Exactement, donc depuis 2004 il y a des rotations sur une période en général de 4 mois. Donc les pays de l'OTAN qui sont en mesure de participer fournissent un certain nombre de chasseurs. Donc en général pour les États baltes c'était un plot de 4 chasseurs qui tenaient pendant 4 mois ce rôle de police du ciel. et qui s'est vu renforcé ou augmenté, si on traduit le, littéralement de l'anglais, au format Enhanced Air Policing, un peu après début 2014, lorsque la Russie est entrée en Crimée, où là, ben, les États baltes se sont sentis menacés par leurs voisins russes et ont demandé un renforcement de la posture de l'OTAN pour protéger leur espace aérien. Et donc là, sensiblement, le nombre de chasseurs a doublé sur plusieurs des plots de police du ciel qu'il y avait dans la zone OTAN. Et en l'occurrence, en Estonie, on est passé de 4 à 8 chasseurs. Donc il y en avait 4 en Estonie, 4 en Lituanie.
D'accord. Et donc au moment, en juillet 2018, ça faisait combien de temps que vous étiez sur place ?
Alors moi, je termine, j'y étais pour moi-même pour un mandat de 2 mois. Donc c'était relativement court. Et en gros, je termine mon mandat. Je vais bientôt rentrer en France et être relevé par un autre pilote. Et puis, ça fait déjà plusieurs missions que j'ai effectuées, à la fois des entraînements et des missions réelles de police du ciel. Et puis, ben, ce jour-là, c'est assez simple, il fait très très beau. On a un temps magnifique d'été au-dessus de la zone balte.
Ouais, ça, les 2 mois, vous n'avez pas eu les 2 mois les pires pour être dans les pays baltes, quoi.
Non, c'est vrai.
Vous êtes tombé sur l'été, quoi.
Ouais, j'ai une petite pensée pour mes camarades qui sont actuellement, là, en ce moment, ils sont en Lituanie. Il fait moins 15, il y a de la neige partout et puis il y a beaucoup de nuages. C'est pas effectivement.
Je précisais qu'on enregistre cet épisode début janvier, je sais pas
comment ouais, voilà. Et il fait nuit, surtout une bonne partie, sur 24 heures, il fait nuit assez longtemps, ce qui est l'inverse en été. Fatalement, il fait jour très tard, hein, à 23 heures, il fait encore très très clair, hein, qu'on est relativement au nord.
Mais donc, simplement, cette mission de police du ciel, c'est quoi ? C'est une posture d'alerte où vous pouvez décoller à n'importe quel moment, où vous patrouillez comme histoire de patrouiller par principe. Enfin, ça se présente comment pour vous, quoi ?
Alors, ça, concrètement, pour les pilotes, il y a des entraînements quotidiens, mais les avions sont armés en permanence, ce qui permet, si jamais on décolle et que là, il y a un événement qui se produit qui nécessite notre intervention, de nous réorienter sur la mission réelle. Donc, quelle que soit la mission d'entraînement qu'on planifie, on est toujours préparé, toujours conditionné pour pouvoir basculer en opération réelle, au cas où, et sans préavis, finalement. Ce qui a aussi un petit peu l'essence de toutes les polices du ciel, hein, c'est pareil en France, quand on est au sol, on ne sait pas pourquoi on va décoller, l'alarme sonne, si vous voulez, on décolle, on fait tout pour décoller dans les délais qui nous sont impartis, puis une fois qu'on est en l'air, là, notre contrôleur nous raconte, nous explique quelle va être la mission qu'on a à faire.
Et donc, en Estonie, on imagine bien que le truc à surveiller, c'est quand même vaguement les passages d'avions russes, histoire qu'ils ne soient pas trop proches du territoire estonien, et...
C'est essentiellement ça. Si on regarde, sans prendre les cartes de manière trop détaillée, pour rappeler un petit peu le positionnement de ces États et qu'est-ce qu'on fait là-bas, vous avez la mer Baltique qui remonte, qui est grosso modo nord-sud, qui est bordée côté ouest par la Suède. L'extrême nord, on va dire, c'est la Finlande. Et puis côté est, vous avez les trois États baltes, donc Estonie, Lettonie, Lituanie. Et puis côté sud, et ben on se rapproche tout de suite de l'Allemagne, etc. Et puis vous avez de la Pologne, pardon. Et puis vous avez l'enclave de Kaliningrad, qui est une petite poche, on va dire sud-sud-est de la mer Baltique, et qui a bien entendu des aéroports civils et militaires. Et
qui est donc situé entre la Lituanie et la Pologne.
Exactement. Et naturellement, et bien il y a des aéronefs russes qui décollent de ce terrain et régulièrement qui ont besoin de transiter vers la Russie. Étant donné qu'il n'y a pas 36 routes pour rentrer chez eux, le trajet habituel, c'est de se mettre sensiblement au milieu de la mer Baltique et de remonter la mer Baltique jusqu'à Saint-Pétersbourg en longeant les frontières. Et le mandat de l'OTAN, sans nommer de nation en particulier, vraiment la posture au départ, c'est de s'assurer que le ciel est sûr, notamment pour les avions de ligne, et donc d'aller voir, les pilotes sont déclenchés pour aller voir tout trafic, tout mouvement d'avion qui ne respecte pas les conventions internationales, donc en l'occurrence une convention de l'ONU, la convention de l'OACI, qui détermine ce qu'il faut pour être être au milieu du trafic aérien, en bonne intelligence et en bonne sûreté par rapport aux autres pays qui volent dans la même région. Donc en général, on est déclenché soit parce que l'avion n'a pas posé de plan de vol, qui est donc une espèce d'anticipation avant de décoller, où on déclare sa trajectoire à l'aviation civile avec les points de passage, les hauteurs qui on va contacter, etc., qui doit être accepté par cette aviation civile, soit parce que il ne répond pas au contrôle ou il ne prend pas attache avec le contrôle par radio, donc il se déclare pas en entrant, c'est un peu comme frapper à une porte, c'est toc toc, bonjour, je suis monsieur Intel, puis-je rentrer chez vous, je suis à tel endroit, etc., et se le voir également autorisé. Et enfin, qui n'utilise pas de transpondeur. Donc les transpondeurs, pour le public qui ne connaît pas forcément ce terme, c'est un boîtier qui équipe la grande majorité des objets qui volent, donc les avions de ligne, les avions militaires, etc., avec un système de code qui va permettre de transmettre au trafic civil la position de l'avion, un certain nombre d'autres informations sur les transpondeurs modernes, mais surtout un code à 4 chiffres qui va permettre d'identifier spécifiquement cet avion dans le trafic aérien, et qui va permettre au contrôleur d'ordonner des manœuvres de séparation, de sorte que les gens ne se rentrent pas dedans, tout simplement.
Et donc tout ça, c'est pour les voyageurs normaux qui respectent les règles de l'aviation civile, et même pas forcément. Et donc on perçoit, à l'approche de cette histoire, que forcément il y a peut-être des avions de chasse russes, ou en tout cas des avions russes, qui ne jouent pas forcément toujours les règles de ces règles-là du jeu.
Oui. Alors oui, on va dire que la vaste majorité, si ce n'est la totalité des événements sur lesquels on est déclenché, spécifiquement dans l'espace aérien balte, c'est des appareils qui ne répondent pas à l'un ou tous de ces critères. Alors en l'occurrence, pour des raisons assez simples, ils ont certains appareils qui ne sont pas équipés de transpondeurs, parce que d'ancienne génération, et puis d'autres parce que suivant, alors je ne sais pas exactement si c'est, on peut dire, en fonction de leur humeur du moment, mais c'est variable. Vous avez des fois, vous avez tout. Il y a un plan de vol, il y a un code transpondeur, il y a des contacts avec le contrôle local, et dans ce cas-là, on ne sera pas déclenché quand les avions russes, en l'occurrence, transitent. Et puis sinon, il manque un de ces objets-là, et donc on va voir, au moins dans un but de vérification d'identité, et puis de s'assurer que tout va bien. Le corollaire de ça, c'est qu'on pourrait imaginer que s'il n'y avait pas cette police du ciel, la route étant ce qu'elle est entre Kaliningrad et Saint-Pétersbourg, il serait assez tentant de tirer au plus droit, et puis de carrément survoler les pays baltes, donc en violant leur souveraineté.
Oui, parce qu'ils n'ont pas d'autorisation de survol, les avions russes, de ces pays baltes.
Ils pourraient la demander. Je pense qu'on peut imaginer que dans le contexte actuel, elle ne serait pas acquise. En tout cas, pas pour les militaires. Pour les avions civils, ça peut se discuter. Comme vous le savez, depuis l'invasion de l'Ukraine, il y a un certain nombre de restrictions de survol pour les aéronefs civils et les aéronefs d'État russe. Mais déjà en 2018, il y a un certain nombre de restrictions.
Ouais. Donc, parfois, ils jouent un peu avec les règles et ils testent un peu la réaction de la police du ciel. Et donc, ce jour de juillet 2018, ça se présente comment? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on vous dit?
Alors, déjà, il se trouve que peu avant de recevoir l'ordre de décollage, on est deux, on est prévu sur une mission d'entraînement avec mon équipier. En l'occurrence, on doit décoller à une heure qui nous a été fixée pour aller entraîner un contrôleur estonien. Donc c'est-à-dire qu'on va lui servir d'entraînement pour lui travailler ses géométries d'interception et les tactiques, on va dire, de guidage dans une zone dédiée au sud d'Estonie. Donc ça, c'est vraiment purement un entraînement. Et ça doit durer une première petite partie de mission, et ensuite on doit basculer dans un petit scénario de contact avec des troupes au sol. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est pas un avion qui peut faire du bombardement, mais on a quand même prévu de jouer un petit scénario où on contacte des commandos, et en l'occurrence c'est nos commandos à nous du CPA-30 qui sont là pour protéger nos avions et notre petit détachement en Estonie.
Alors vraiment à vous, parce que le CPA, c'est donc le commando parachutiste de l'air, donc c'est les forces spéciales air.
Oui. Voilà, en l'occurrence, c'était à l'époque, oui, j'ai dit CPA-30, pardon, c'est CPA-20. Donc les gens des gens d'Orange à l'époque pour lesquels on doit travailler brièvement pendant un quart d'heure, 20 minutes pour faire quelques échanges radio et pour maintenir une qualification d'un des commandos qui est au sol. Voilà, donc on prépare cette mission de manière tout à fait standard. Comme je vous l'ai dit, il fait hyper beau, on a une visibilité incroyable, on sait qu'on va voir, toute la Baltique, et puis on ne s'attend pas à être gêné par les nuages. Et puis, autre chose qui est assez confortable ce jour-là, comme on est en plein mois de juillet, il fait bon et la mer est chaude. Donc, ça nous permet de nous dispenser de mettre la combinaison étanche, qui est une espèce d'enveloppe avec un zip étanche là, qu'on met avant de mettre notre équipement de vol et qui nous permet de nous garantir un bon temps de survie si jamais on sélecte au-dessus de l'eau et qu'on tombe dans l'eau. Donc ça, on la met assez longtemps dans l'année dans des régions comme celle-là. Et en plein été, ben là, on a une petite fenêtre d'une quinzaine de jours où les températures font que...
On peut voler en
combinaison de vol normale comme on le ferait en métropole, ce qui est assez confortable. Donc bref, c'est pas qu'on est détendu, parce qu'on sait qu'on est aussi d'alerte en parallèle, mais on n'a pas de pression particulière ce jour-là, et puis on n'a pas de préavis de trafic particulier, donc on prépare notre mission, et puis on s'est briefé en quoi faire si jamais il y a un changement de mission en vol, quoi. Et pendant qu'on va s'équiper pour partir en vol d'entraînement, on commence à mettre nos pantalons en tigé, prendre nos casques et puis notre documentation de vol. Et là, il y a l'alarme qui sonne, l'alarme de déclenchement. Donc là, il y a une grosse voix qui parle en anglais avec un accent estonien assez fort, hein, et qui dit « Alpha Scramble ». Donc Alpha Scramble par opposition au Tango Scramble, qui est Tango pour training. Alpha, c'est une alerte réelle et ça veut dire « Ok, c'est parti ». Donc on n'a pas eu de préavis particulièrement. Donc on termine de s'équiper, on est largement dans nos délais pour décoller, donc on court aux avions comme on l'aurait fait si on n'avait pas été prévenu. On monte à bord et puis on commence à démarrer avec mon équipier. Je dis écoute, on a briefé, on change rien, on fait comme prévu et puis on applique le plan à l'air réel. Et donc sur Mirage 2000, comme le Rafale et comme la plupart des avions modernes, on a la chance d'être équipé d'une liaison de données, un terminal qui est dans l'avion qu'on appelle la liaison 16, dans lequel on va recevoir des informations soit de nos équipiers, soit du centre de contrôle, soit d'un bateau, soit d'un AWACS, les avions de guet aérien, qui nous permet de voir sur une carte qui se déplace en fonction de notre position, de voir où sont les autres objets d'intérêt, nos équipiers, éventuellement les gens qu'on va devoir intercepter. Et donc pendant qu'on met en route, on démarre ce terminal, et la magie du positionnement des antennes et le fait que ça soit un pays relativement plat, on reçoit les infos assez bien, et déjà dans la hangarette, pendant qu'on met en route, on commence à avoir des informations. Donc on voit qu'il y a un petit groupe de plusieurs avions, on voit que ça arrive du sud, et on se doute que ça va être ça, parce que sinon c'est symbolisé. Il y a des symboles et des couleurs qui font qu'on sait que c'est cet objet-là qu'on va aller voir, il n'y a rien d'autre dans le ciel. Quoi.
Donc ça vient du sud, ça vient notamment de Kaliningrad, ouais. Et c'est vraisemblablement des avions russes qui rentrent à la maison.
Voilà, alors on sait de façon à peu près certaine effectivement que ça va être des avions russes. On ne sait pas encore quel type ça va être, mais de la trajectoire qu'on voit, ça ressemble au classique que je vous décrivais tout à l'heure, donc un décollage de Kaliningrad. Et puis ça remonte le long des côtes baltes, en mer, hein, au-dessus de la mer Baltique, pour rejoindre Saint-Pétersbourg. Donc on démarre, on s'aligne, on décolle, et puis mon équipier va tout de suite se mettre dans la position que je lui ai briefé, c'est-à-dire pas trop proche de moi, mais plutôt en secteur arrière, on va dire de l'ordre d'un bon nautique, donc de l'ordre d'un peu moins de 2 km derrière moi. Comme il fait super beau, il me voit très très bien, et puis il va être, je compte sur lui pour être ma couverture pendant toute la mission, peu importe ce qu'on va aller voir. Il a un rôle bien spécifique, il va pouvoir se charger de prendre des photos, moi aussi je vais prendre des photos si jamais on a l'occasion de le faire. Et puis de manière générale, lui il contribue à la sécurité du vol, parce que, alors ça on ne le sait pas encore à ce moment-là, mais le coin dans lequel on s'apprête à les intercepter, c'est finalement le virage au-dessus de la mer Baltique, entre la route au nord qui remonte de Kaliningrad, et le moment où les avions tournent vers l'est en direction de Saint-Pétersbourg. Et à cet endroit-là, Le découpage de l'espace aérien fait que côté sud-est, ça c'est régi par les pays baltes, côté ouest, c'est régi par les Suédois, et côté nord, c'est régi par les Finlandais. Et à cette époque-là, en 2018, ni la Finlande ni la Suède ne font partie de l'OTAN, et donc elles ont leur propre police du ciel, et elles aussi, elles déclenchent des missions de police du ciel pour les mêmes motifs. Donc elles vont voir aussi ce qui passe à proximité de chez elles, et puis donc on peut s'attendre à ce que à ce point-là, il y ait potentiellement encore des Suédois qui sont dans les parages, et aussi des Finlandais qui sont dans les parages avec leurs chasseurs.
Donc tout le monde se retrouve au-dessus de la Baltique
et... Tout le monde se retrouve au-dessus de la Baltique. Alors c'est très bien fait dans la mesure où à l'époque il y a déjà une excellente coordination entre l'OTAN et puis ces deux pays. Donc c'est un problème connu qui a qu'on va potentiellement se retrouver à beaucoup de monde, beaucoup de métal dans une région géographique très petite. Et donc en bonne intelligence, les polices du ciel se passent le relais, alors sans procédure, on va dire, légale, mais en tout cas en bonne intelligence géographique et temporelle, on fait en sorte de ne pas se gêner mutuellement les uns les autres. Mais ça ne nous empêche pas de quand même bien regarder dehors. Mmh. Voilà.
Et du coup, quand vous arrivez donc vers ce virage, en tout cas quand vous rattrapez les avions qu'il faut intercepter, ça ressemble à quoi ?
Alors pendant la montée, on nous dit que les objets qu'on doit intercepter, les avions qu'on doit intercepter, sont un peu au-delà de 20 000 pieds, donc aux alentours de 6 000 mètres, quoi, sensiblement. Le contrôleur nous dit, on demande à nous des informations au contrôleur pour nous dire alors qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on va devoir faire. Alors il nous dit qu'on va devoir aller se rapprocher pour identifier visuellement, mais que lui, des renseignements dont il dispose, il pense que ce sont des flanqueurs. Donc les flanqueurs, c'est le mot code de l'OTAN pour désigner le Sukhoi 27 et ses variantes. Et en l'occurrence, il nous précise flanqueur hôtel, donc le Sukhoi 30. Qui est la version biplace du modernisé, on va dire, du Sukhoi 27. Et donc on s'attend à voir ça. On lui demande combien il y en a, et puis il nous confirme les informations qu'il nous a passées par la liaison de données, c'est qu'a priori il y en a trois. Donc là nous on est très très attentifs, on regarde dehors le autant que possible, et puis rapidement en fait on les voit. Et le contrôleur, donc on lui dit qu'on les voit, et il nous autorise à venir nous mettre en place derrière eux. Donc là, à ce moment-là, nous, notre priorité absolue, c'est la sécurité. C'est-à-dire de faire en sorte que personne ne se rende dedans, personne ne se fasse peur. Aussi bien eux que nous, qu'on préserve les matériels, il y a...
Parce que c'est un jeu qui est quand même relativement balisé. C'est-à-dire, certes, les Russes parfois jouent un peu avec les limites. Ça a pu arriver à certains endroits, à certains moments. Mais bon, là, de ce que vous en décrivez en plus, tout le monde a l'habitude, ils ont l'habitude de se faire intercepter. Vous l'avez, enfin, il s'agit pas de paniquer sur un truc un peu routinier comme ça, quoi.
Exactement. Alors ça, c'est parfaitement vrai, hein, comme vous l'avez dit. Bon, il y a très régulièrement des transits. Ça peut être des avions de transport. Ça peut être, en l'occurrence, pendant la Coupe du Monde de football, comme vous pouvez vous en douter, il y avait un certain nombre de transits de VIP qui transitaient dans des avions présidentiels, ou enfin des avions gouvernementaux, pardon, qui étaient même escortés. Donc ça attirait pas mal de masse métallique, là aussi. Et la plupart du temps, ils ont un comportement tout à fait passif, neutre, c'est-à-dire qu'ils suivent leur plan de vol, on les voit quand on vient à côté d'eux, on les voit à travers les vitres de leur cabine, on a plus ou moins des signes amicaux, en général ils font comme nous, hein, ils sortent un appareil photo, bien souvent chez eux ils sortent un téléphone portable, ils prennent une photo souvenir, et puis...
Oui, vous avez des... c'est quoi vos appareils quand il faut prendre une photo ?
Alors nous on prend des photos avec l'appareil photo. Après on a les caméras de.
C'est quoi ? C'est un appareil photo professionnel ? C'est un numérique ?
C'est un numérique.
C'est un petit numérique.
Ouais, c'est un petit. Alors notre avion a déjà un certain nombre de systèmes d'enregistrement. Il y a notamment une caméra, mais qui filme surtout le secteur frontal. Donc c'est bien quand on est derrière, mais dès qu'on arrive de côté par rapport à un avion, il faut avoir un autre moyen pour prendre une vue sur le côté.
On vous force pas encore à prendre des photos avec des péloches, quoi.
Non, alors non, ça c'est bien modernisé. Puis c'est vrai que le petit compact numérique, c'est quand même très pratique. On peut voir loin. Puis c'est compatible avec la cabine qui est assez étroite. Et puis comme on est en avion monoplace, on n'a pas non plus l'opportunité d'avoir quelque chose de complexe à gérer. Donc les petits portables, les petits compacts numériques, c'est vraiment très très pratique.
Et donc la majorité du temps, c'est relativement... Bon, après tout, vous êtes tous pilotes, etc. Mais vous faites des contacts radio ou pas ?
L'écrasante majorité du temps, non. On n'en a pas besoin. D'ailleurs, c'est pas ce qu'on nous demande. C'est vraiment de la vérification d'identité. On n'a pas de raison de rentrer en contact avec eux. En revanche, on va appliquer ce qui est prévu par la convention de Chicago. Hein, donc toujours cette histoire d'ONU hein, et de règles de l'aéronautique partout dans le monde. Et ce qui est prévu quand on déclenche une police du ciel comme ça, c'est que l'intercepteur vienne se placer sur le côté gauche de la formation et puis vienne observer et après. peuvent dérouler un certain nombre de mesures. Nous, en l'occurrence, ce qu'ils nous a demandé, c'est d'aller prendre des photos.
Et quand vous dites on va se placer, etc., vous êtes à quoi? Vous êtes à 30 mètres, 100 mètres, 200 mètres, 1 km?
Oui, alors là on est à quelques dizaines de mètres, quelques centaines de mètres initialement. Pendant qu'on vire, moi je vois les trois chasseurs russes. Ils sont pas en patrouille serrée, mais ils sont très regroupés. Il y a un appareil de tête et puis deux équipiers qui sont sur ses côtés. Et puis plus on s'approche, plus je me dis oh, c'est vraiment magnifique. Enfin, c'est vraiment un avion magnifique. Hein. Déjà il est très gros
par rapport. On peut préciser. Enfin moi on en parlait un peu avant la mission. Moi aussi c'est une passion les avions russes, notamment toute cette séquence les flanqueurs, donc SU-27, SU-30, il y a quoi, il y a 34
34, ouais. 35, oui, maintenant il y a un certain nombre de dérivés après.
Qui ont vraiment des espèces de becs de cigogne, enfin bon, c'est très ouais. Très beau quoi.
Oui, alors c'est un avion qui est très gros en dimension, hein, pour vous donner une idée, son envergure, c'est déjà la longueur totale du Mirage 2000, quoi. C'est vraiment une très très grosse plateforme, il y a deux réacteurs gigantesques, il y a deux grandes dérives. Là, le Sukhoi 30, c'est un appareil biplace. On arrive par le dessous, donc par le dessous, il y a un camouflage qui est très clair dans des tons de bleu, là, qui est assez joli, mais surtout dès qu'on arrive de côté, on découvre le camouflage vu du dessus qui est très sombre, presque noir. On voit bien sûr l'étoile rouge au sommet de la dérive, et puis il a en très caractéristique, il a un nez tout blanc, et puis les sommets des dérives qui sont toutes blanches. Vraiment un bel avion.
Ils savent faire des beaux avions quand même.
Ouais, ça sent la puissance, voilà, c'est imposant quoi. C'est imposant, on sait en plus que c'est un avion qui a des capacités de manœuvre qui sont extraordinaires, qui a la possibilité de manœuvrer dans une enveloppe vraiment, vraiment très petite. Vraiment une belle bête, hein, comme on dit dans le jargon. Donc on est content d'avoir la chance de voir ça de près, parce que finalement, dans nos entraînements... Oui, c'est la première fois que je vois un chasseur russe en vol. J'ai eu l'occasion de voir des appareils de transport. Après, j'ai été dans des meetings, j'ai regardé la télé, mais là, de le voir en vrai, d'être pas très loin de lui, voilà. Puis ils sont trois, c'est chouette, on voit très bien les têtes des pilotes, là, ils ont tous des casques blancs, ils nous regardent, on les voit bien, ils ont tous leurs masques. Et là, il n'y en a aucun d'entre eux qui a ni d'un appareil photo, ni un téléphone portable. Donc on sent que c'est sérieux, et tout de suite on sent que c'est assez fermé.
Oui, c'est pas salut les copains depuis voilà. Tout, ouais.
Et donc
et vous comprenez pourquoi, non?
Ah non, alors bon, on comprend qu'ils sont en transit. Bon, il n'y a pas spécialement d'équipement particulier, ils sont pas en train d'escorter un autre avion, ils sont ensemble, c'est une patrouille de trois, voilà, c'est pas qu'on n'a aucune idée du motif qui fait qu'ils transitent, si ce n'est peut-être un changement d'avion, c'est-à-dire une fois que les avions à Kaliningrad ont besoin de retourner chez leur industriel pour une grande visite d'entretien, ils permutent avec des avions frais, entre guillemets, voilà. Et donc je me place comme c'est prévu initialement sur la gauche, et puis comme on est en milieu de journée et qu'on est en route vers l'est, là j'ai le soleil sur ma droite et c'est pas très favorable pour prendre des images, donc je demande au contrôleur si je peux aller me placer sur la droite de la formation pour avoir une meilleure vue et prendre des photos plus efficaces qui seront plus intéressantes pour la chaîne de commandement au débriefing, pour qu'on puisse relever proprement le type d'appareil, etc., la formation, les emports, les antennes, tout ce qui intéresse à la fois le renseignement puis plus généralement les opérations. Et je vérifie que mon équipier est bien comme je l'ai prévu, 2 km derrière, puis le contrôleur me dit ok, pas de problème, vous vous approchez pas trop pour pas les gêner, puis vous allez prendre des photos. Puis je me décale sur la droite de la formation et je commence à prendre des photos. Et pendant que je prends les photos des trois avions, je m'aperçois qu'il y a un des deux équipiers qui commence à bouger. Et en l'occurrence, ce que je détecte en premier mouvement, c'est l'aérofrein qui s'ouvre. Alors les aérofreins, c'est des dispositifs en général, c'est des espèces de grosses portes que les avions braquent avec un système hydraulique qui leur permettent de freiner, comme son nom l'indique, dans l'air, et de pas mal se ralentir. Donc ça vient en complément de la diminution de puissance au niveau des moteurs, et ça permet de ralentir plus vite que de juste glisser sur le ralenti des moteurs. Et sur le Sukhoi 30, l'aérofrein il est gigantesque, c'est une espèce de porte qui est sur le dos de l'avion, derrière la cabine. C'est immanquable, hein. on voit vraiment cette grosse porte qui se braque au-dessus de l'avion. Et puis il ralentit et il commence à glisser, donc il glisse vers moi, puis il glisse sur le côté. Et puis bon, très rapidement, moi, je comprends que ce qu'il veut, c'est venir derrière moi. Donc ce qu'on a briefé à ce moment-là.
Ce qui est pas c'est pas la position que rappelons que dans un c'est celui qui est derrière qui gagne dans ces affaires-là. En tout cas, c'est la position menaçante.
Oui, voilà. Alors dans une certaine mesure, on pourrait comparer ça à quelqu'un qui vous met en joue. C'est-à-dire que de la position où je suis moi le chasseur et l'intercepteur, et ben il vient me faire comprendre que il veut pas se laisser faire. Et que clairement il veut montrer, marquer le fait que je suis pas le bienvenu. En tout cas, la patrouille ne m'accepte pas en tant que dans son environnement. Et ils veulent marquer le coup et montrer qu'ils sont bien présents. Donc, ce qu'on avait briefé avec mon équipier, c'est qu'il est hors de question de provoquer une escalade. C'est nous qui restons passifs, bien qu'on ne fuit pas. On reste sur place, on reste avec la patrouille. Et donc, je choisis de demander à mon équipier de surveiller ce qui se passe avec cet avion qui glisse progressivement derrière moi dans mes 6 heures. Et pendant que je m'occupe de faire les photos que j'ai pas encore eu le temps de faire des deux avions de tête. Et donc c'est parti, on fait ça, et je me souviens que je fais mon travail de photo, les deux avions de devant restent relativement passifs, et puis derrière je le vois manœuvrer, il fait des virages, et puis il vient vraiment se placer juste derrière moi à quelques centaines de mètres dans son enveloppe de tir. Alors j'ai pas de signaux qu'il est en train de m'éclairer avec son radar, mais il est en position de tir juste derrière moi.
Voilà. Donc là, même si vous n'avez pas de signaux, on se sent comment ?
Eh bien, le premier réflexe qui vient, c'est de se dire, lui, il est comme moi, c'est-à-dire qu'il a une mission, mais il a des consignes, il n'est pas fou, et ni lui ni moi, on a envie d'une escalade, ou pour être extrême, on a envie de déclencher une guerre mondiale, quoi. Voilà. Donc on se doute bien que si jamais il y en a un qui venait à franchement gêner l'autre, ou pire, à ouvrir le feu, ou quelque chose comme ça, eh bien, ça aura des conséquences qui nous dépasseraient largement nous, notre niveau d'exécutant, de pilote, quoi. Donc je me dis que c'est comme ça. J'ai quand même un petit œil, on a un rétroviseur dans les avions là, je regarde dans mon rétro et puis je le vois juste derrière. Je me souviens que j'ai essayé de prendre une photo de son avion dans le rétro, mais je devais pas être très à mon aise, qu'elle a pas été très très bonne, la photo, elle est un peu floue, mais bon, ça fait un souvenir d'avoir cet avion là et puis je suis conforté par le fait que j'ai mon équipier qui est derrière, et puis j'ai toute la chaîne de commandement à qui je parle en continu, qui je dis il se passe ça, on est comme ça, l'information c'est ça, donc le contrôleur il note tout. Et puis je lui dis qu'on est passif, que nous on cherche pas spécialement à manœuvrer. On sait, vous l'avez évoqué, on sait qu'il y a des cas où ça manœuvre, et puis c'est tonique. Nous on a fait le choix de rester calme et serein, et puis de continuer à faire notre travail. Mon équipier est très calme aussi.
Vous voulez dire que vous auriez pu vouloir éviter cette situation-là, vous auriez commencé à décrocher, à faire des virages pour essayer de reprendre une position plus confortable.
Ouais, exactement, le réflexe un peu reptilien, c'est de se dire, faire tout ce qu'on a toujours appris, c'est-à-dire, il y a un avion qui essaie d'aller derrière moi, je fais la manœuvre pour garder l'avantage, d'autant que j'arrive dans une position extrêmement avantageuse au départ, c'est moi qui arrive derrière, c'est facile, c'est confort. Et la tentation est grande, mais autour de nous, c'est pas une zone d'entraînement militaire, il y a du trafic civil, on arrive au-dessus d'une zone où il y a tous les trafics qui vont de l'Europe vers les pays scandinaves, il y a des avions de ligne dans tous les sens.
Et nous, c'est pas trop l'endroit pour faire un petit dogfight.
C'est pas trop le moment de descendre de plusieurs milliers de pieds au milieu des avions de ligne, même s'il fait très très beau et puis qu'on se voit tous super bien. Donc je me concentre là-dessus, mon équipier il est hyper calme, il me dit je vois, c'est bon, tu peux continuer, je le vois, il est derrière toi, il est stable. Lui il est comme le russe, il n'allume pas son radar, il le pointe pas, on va dire, il l'illumine pas, c'est ce qu'on dit dans notre jargon avec une conduite de tir, mais il le tient aussi en respect de derrière, et ça le russe il le sait parfaitement. Donc je fais les photos des deux de devant. Et puis, une fois que j'ai terminé, je me dis, ce que je vais faire, c'est que maintenant, moi, je vais ralentir, puis je vais aller me laisser glisser derrière l'autre, et puis il va sûrement revenir à chercher sa patrouille, quoi. Pendant que je me dis ça, je range mon appareil photo, puis là, mon équipier me dit, attention, je crois qu'il se rapproche de toi. Et là, je me retourne sur ma droite, parce que je sais qu'il a glissé sur la droite, et en fait, là, il est effectivement en train de revenir vers ses copains, mais il le fait avec une méthode qui est assez particulière. Il vient se coller à quelques mètres de moi, moins d'une dizaine de mètres de moi sur le côté droit. Quand il arrive sur le côté droit, il se met sur la tranche, donc là je vois toute l'envergure de l'avion vraiment collée à moi. Il me double Et dès qu'il m'a doublé, il coupe ma trajectoire. Donc là, je vois cette grosse masse à passer devant. Et puis là,
c'est une queue de poisson, quoi.
Là, c'est, exactement, c'est littéralement la queue de poisson. Et là, le réflexe que j'ai, c'est ça va bouger. Parce que derrière un poisson comme ça, il y a une turbulence de sillage, une vague de turbulence qui est proportionnelle à la taille de l'avion. Et je m'attends à faire me secouer. Et effectivement, je me fais secouer, ça bouge un peu dans tous les sens. Et je me dis bon qu'est-ce que je fais à part encore une fois je garde le contrôle de l'avion, j'en parle au contrôleur, je le vois s'éloigner et puis il remonte. Alors, mon équipier il est un peu stupéfait, je me souviens il me demande à la radio, on se parle en anglais mais il me demande c'était quoi ça, et je lui écoute attends stand by, on regarde juste. Donc on le dit au contrôleur, là on voit qu'il retourne dans la formation initiale, les trois avions ensemble, et là le contrôleur est lapidaire, il nous dit skip it, c'est ok, fin, c'est la fin, vous pouvez quitter, il nous donne un cap et puis c'est fini. On s'écarte de la formation, on les voit disparaître au loin, d'ailleurs ils sont quasiment en train d'arriver, le transit a été assez long avec eux, et ils sont quasiment en train d'entrer dans l'espace aérien russe, et donc on les voit poursuivre leur mission comme si de rien n'était, comme s'ils étaient en simple transit. Et nous, du coup c'est fini, on redescend tranquillement vers notre terrain, et là on se dit qu'on vient de vivre un petit moment qui est pas comme tous les jours. Alors certes on se prépare, on a vu des avions russes, on a eu des consignes de notre chaîne de commandement, comme je vous le disais, pas d'escalade, etc. Mais de les voir en vrai, de se dire à ce moment-là dans le contexte international, c'est quand même relativement crispé, les relations sont pas simples avec la Russie, on est toujours dans le contexte post-Crimée, etc. On se dit bon, eux, ils sont pas déclarés comme étant nos meilleurs amis, c'est pas nos alliés, et on vient de se rencontrer en vol. Et ce qui s'est passé, c'était pas de la courtoisie, mais c'était assez intéressant. C'était un cas, on va dire un cas un peu non conforme.
Ouais, il a senti que vous étiez curieux de la beauté de son appareil, il a décidé de vous montrer toutes les tranches, quoi.
Oui, voilà. Et puis
vous avez compris après de quoi il était question?
Oui, je pense que c'est une marque de... Alors, vulgairement, on pourrait appeler ça de la virilité, mais c'est aussi affirmer qu'ils font leur mission et qu'ils n'attendent pas... Ils comptent pas se laisser gêner.
Vous pensez que c'est des consignes ou que c'était un truc... Un des trois avait plus mauvais caractère que les deux autres?
Ah, c'est difficile à dire. On voit... comme vous vous en doutez, c'est pas un cas... totalement isolé, des rencontres avec des avions russes, il y en a ailleurs dans le monde. Vous avez peut-être dû voir dans la presse, il y a eu des rencontres avec des avions russes en Syrie, ça arrive, dans le cadre de l'opération Chamal, ça arrive pas régulièrement, ça reste quand même des événements plutôt rares. Mais là, dans ce contexte-là, c'est intéressant parce que pour nous Français, on est insérés au sein de l'OTAN. On est dans un espace aérien, c'est l'Europe, c'est l'Union Européenne même. On a un contexte, une géographie qui font que c'est pas comme si on était isolé dans un coin du monde dont toute l'Europe ou tous les Occidentaux se fichent. Il y a une certaine importance. On a l'impression de faire partie de la défense de la forteresse. Et donc pour nous, c'est important. C'est pas comme si c'était au-dessus d'un endroit où on a a priori, en tout cas personnellement, pas d'attache. Là, on a quand même un sentiment quoi, d'appartenance forte à tout ça. Je pense que eux, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que eux, ils ont l'impression d'aller de chez eux à chez eux, et ils ont envie de faire leur mission. Et ils ont envie de dire que quels que soient les enjeux, ils feront leur mission. Ils ont, je pense, pas l'impression de nous gêner plus que ça. En tout cas, ils savent que l'OTAN les regarde et puis contribue à la sécurisation du ciel, mais ça va pas les empêcher de faire leur mission. Et en gros, le signal, c'est vous nous embêtez, et puis grosso modo on est aussi capable de montrer qu'on n'est pas impassible, on a nous aussi nos nerfs, on a nous aussi notre envie de faire notre mission et puis de la faire le mieux possible.
Et nos avions sont très gros.
Bon, après ça c'est, j'imagine que c'est l'histoire des conflits, hein. C'est toujours à celui qui a l'avion le plus gros ou le plus performant. En l'occurrence, on a vu des manœuvres encore plus toniques dans d'autres situations où il y avait par exemple des escortes de VIP. Là aussi, si vous cherchez en source ouverte, vous verrez des fois c'est filmé depuis les cabines des avions russes et après c'est distribué sur les réseaux sociaux où on voit On voit des intercepteurs de l'OTAN se faire pousser par des manœuvres hamantoniques. Bon, disons que ça empêche pas d'aller les voir, ça n'empêche pas de ramener des photos, d'alimenter le renseignement. Et puis après, c'est une question de posture. C'est-à-dire que le jour où on décide d'avoir une posture plus ferme, et ben nous aussi on a encore tout un panel de mesures qu'on peut prendre pour durcir le ton. Des fois c'est simplement un affichage de la quantité d'armement qu'on emmène, des délais de réaction, du nombre d'avions auxquels on vient, enfin tout un panel de choses qu'on peut faire pour nous aussi montrer notre fermeté.
Merci beaucoup, Colonel.
Et ben de rien.